Deuxième volet de notre série d'été, qui sera sur 4 fois sur la thématique « Une foi fermement positionnée ». Et je suis sûr que ce que Ludovic nous a dit va résonner aussi, non seulement dans son cœur, mais aussi dans le nôtre. Pourquoi parler d'une foi fermement positionnée ? Parce qu'il y a dans la vie des positions de foi qu'il faut tenir dans la durée. J'ai remarqué que beaucoup de personnes partent un moment dans un élan de foi, de reconnaissance, de louange et de service aussi, mais s'arrêtent au bout d'un certain temps. Leur foi n'est pas encore peut-être suffisamment positionnée, fermement ancrée pour poursuivre la route. Or, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. Nous voulons grandir dans cette foi solide, forte, stable, dans la maturité. Et nous voulons appliquer cette foi dans la pratique. Nous avons vu la dernière fois une personne, un personnage de l'Ancien Testament qui a appliqué cette foi en prenant des décisions justes, en disant oui au Seigneur et en obéissant pleinement et en disant non en même temps à des choses où il savait qu'il fallait renoncer, où il savait qu'il fallait se séparer, car une foi fermement positionnée est une foi qui, tôt ou tard, et même régulièrement, nous oblige à des séparations avec des choses qui sont nuisibles, qui sont négatives et qui nous retiennent, qui nous bloquent, qui ne nous aident pas à avancer et qui nous permet d'aller de l'avant avec le Seigneur. C'est ce non à ce qui plaît pas à Dieu et ce oui de l'obéissance. Cet apprentissage de la foi qui fait des choix justes. Une foi fermement positionnée sera une foi éprouvée. Si vous voulez positionner votre foi dans l'obéissance au Seigneur, vous serez forcément éprouvés. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Produit la patience. Et la patience, nous dit encore le texte de Jacques, cette patience doit accomplir parfaitement son œuvre. Des fois, on croit qu'on est patient, mais l'accomplissement dans la perfection n'est pas encore atteint. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli, donc mature. Nous ne voulons pas répéter les 4 choix importants de la vie de Moïse que vous pouvez retrouver dans Hébreux chapitre 11, versets 24 et suivants. Mais nous voulons poursuivre avec un nouveau personnage biblique dans quelques instants. Mais avant cela, alors que cette foi fermement positionnée sera éprouvée, une foi fermement positionnée doit plonger ses racines dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il faut entendre, il faut recevoir la parole de Dieu. Ce n'est pas juste la parole lue ou prêchée, mais il faut la recevoir. Il faut que cette parole devienne un réma, une parole qui est pour nous dans ma situation. Il faut la désirer, il faut la recevoir une foi plongée dans la parole de Dieu. Et il faut être enraciné. Il faut qu'on l'intègre pleinement et qu'on soit convaincu. La foi fermement positionnée, et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec le personnage suivant, c'est une foi qui accepte le lieu d'apprentissage où nous sommes. Le lieu d'apprentissage où tu es planté, c'est le lieu où ta foi va être non seulement testée, mais elle va pouvoir éclore, grandir, s'approfondir pour devenir solide et tenir pour la durée des temps. Le terrain d'apprentissage qui est, bien sûr, la famille avant tout, le couple même, l'église, le lieu de travail, tous ces lieux d'apprentissage sont là pour nous donner la possibilité de déployer, d'exercer notre foi au quotidien. C'est là que nous apprenons les leçons indispensables. C'est là que nous sommes confrontés à la chair et ses contestations, ses exigences, ses désirs, ses peurs, etc., etc. C'est là que nous prenons position, c'est là aussi que nous sommes transformés. Je voudrais vous parler ce matin de David. Tu peux mettre l'image juste David. Et nous allons quelques instants lire quelques extraits du texte, qui était un texte très connu, mais je suis persuadé que même si vous avez déjà entendu des prédications sur ce texte, vous allez encore découvrir quelque chose. Quelque chose va encore être utile pour votre vie ce matin. Ayez juste un cœur ouvert, ne dites pas « Oh, qu'on connaît déjà !» parce qu'il y a des richesses impressionnantes dans ce texte. David, nous allons parler de David quelques instants. Ce jeune David, il n'est pas encore roi. Nous ne parlons pas de la royauté de David, mais nous parlons de David, le jeune, qui prend des positions de foi, qui fait des expériences de foi. Il fait des expériences de foi quand il est seul avec Dieu. La foi, écoutez-moi, la foi se bâtit quand vous êtes seul avec Dieu. La foi se construit quand vous êtes seul avec Dieu dans l'endroit où Dieu vous a placé. Elle se construit parfois dans des longs temps de solitude où nous apprenons à régner sur nous-mêmes avant de pouvoir régner sur quelque chose que Dieu nous confie. Nous apprenons à régner sur nous-mêmes, sur notre chair, nos désirs et nos projets personnels, nos désirs personnels, avant que Dieu puisse nous confier quelque chose pour les autres. Les expériences des autres sont bien, mais il faut que je fasse moi seul des bonnes expériences avec le Seigneur pour avoir un appui et réellement un témoignage personnel. Il ne sert à rien de copier des témoignages des autres pour pouvoir raconter ce que Dieu fait. Il faut que tu le vives toi-même. Il faut vivre soi-même des expériences. Et David était celui-là. Il vivait lui-même les expériences avec Dieu. D'ailleurs, il les a retracées dans de nombreux textes que nous avons dans les psaumes. Est-ce que vous écrivez votre psaume personnel, votre texte personnel, votre témoignage personnel, votre prière personnelle au travers d'une expérience? Chaque psaume résulte d'une expérience avec Dieu, une expérience personnelle, souvent vécue dans la solitude. N'ayez pas peur de la solitude. C'est là que Dieu nous forge. C'est là que Dieu prépare en secret ce qui est précieux. C'est dans la solitude que les diamants se forgent, sont formés sous une pression incroyable. Dans la solitude que les choses se passent qui sont profondes, authentiques, fortes et qui ont une grande valeur. Quand David va rentrer chez lui, personne ne va le féliciter, personne ne va l'applaudir. Mais ce qu'il aura vécu dans la solitude, il sait que c'est vrai. Il n'a pas forcément besoin des applaudissements des autres. Parce qu'il sait qu'il a vécu quelque chose avec Dieu. Il n'est pas compris par ses frères, il n'est pas compris par son père. Il est ignoré et pas reconnu dans son ministère même, même dans son onction. Mais il sait que ce que Dieu fait, c'est authentique et c'est nécessaire. Ce que Dieu construit dans la solitude, il en aura besoin demain pour être le berger d'Israël. Ainsi, il grandissait dans la foi. Et encore une fois, je répète, ce que tu vis, ce que je vis avec Dieu aujourd'hui, est nécessaire pour demain. C'est pourquoi je ne veux pas me contenter du minimum vital aujourd'hui, car demain ce sera insuffisant, mes frères. Ce sera insuffisant. Vivons des choses sans avoir peur de la solitude. Nous avons besoin, et Dieu nous place parfois dans des zones de désert, des zones de solitude, pour que justement nous puissions vivre et ancrer notre foi, afin qu'elle soit fermement positionnée, non pas par des expériences émotionnelles, mais par une expérience, une rencontre vitale avec le Seigneur, où on cherche sa face, où on grandit dans la foi. Et la foi, ce n'est pas s'appuyer sur les circonstances et les choses qu'on voit, mais c'est s'appuyer sur ce que Dieu dit. Nous tournons maintenant dans 1 Samuel, chapitre 17. Quelques extraits de lecture, c'est trop long de lire tout le chapitre, bien sûr, on va lire quelques extraits. Je commence à partir du verset 16, plutôt du verset 3. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté, la vallée était entre eux. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un empan, ça veut dire à peu près 3 mètres. Passons au verset 8. Il s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël et leur cria. « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi le Philistin? Et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez alors nos esclaves et vous nous servirez. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Verset 20. David se leva de bon matin. Il remit le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit. Comme Ésaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lançait une clameur de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, troupe contre troupe. David se défit de ses bagages, les remit entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs. Aussitôt arrivé, il salua ses frères. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, « Que ferait-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera ce défi lancé à Israël ?» Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant ou bien pour insulter le Dieu vivant ? Le peuple, répétant les mêmes paroles, dit « Voilà ce qu'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il lui dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert ? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je fait jusqu'à présent ? En voilà une affaire. » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et lui posa les mêmes questions. Ensuite, nous passons au verset 32. « David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon, mais lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton et je le frappais et je le tuais. » C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté les troupes du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül lui dit, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Verset 40. « Il prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger. » et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu et de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai, je te couperai la tête, aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. » Verset 51, « David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. » Et je n'ai pas lu le petit texte qui disait que David, il a lancé la pierre qui s'est enfoncée dans le front de ce Philistin pour le mettre par terre. David arrive de manière surprenante et non préparée pour retrouver un ennemi qu'il n'avait jamais vu, ni même dans ses rêves, qui se trouve sur un champ de bataille, redoutable. Il se retrouve d'un coup propulsé sur un terrain complètement inconnu. Mais parce qu'il a vécu quelque chose avec Dieu auparavant, en arrivant devant un ennemi inconnu sur un terrain inconnu, sans le savoir, il a été préparé par Dieu pour faire face à ce défi. Parce qu'il avait une foi fermement positionné jour après jour dans sa vie de solitude, il pouvait réagir de manière juste lorsque le grand défi ou un défi supérieur sera placé devant lui, alors qu'il se croit peut-être non préparé. Mes amis, nos préparations d'aujourd'hui, notre temps avec Dieu aujourd'hui, notre refus d'être négligent aujourd'hui sera utile demain. Nos négligences d'aujourd'hui se payeront cher demain. Notre faiblesse d'aujourd'hui sera faible demain. Notre force d'aujourd'hui sera force multipliée demain par la grâce de Dieu. L'armée d'Israël est dans la défaite parce qu'il n'y a pas de foi dans cette armée. Il n'y a pas d'onction dans le leader de cette armée. Ils sont paralysés d'abord par le mensonge du diable parce que Goliath, avant d'être un bon guerrier, c'est un bon prédicateur. Il est dit, « Je suis le Philistin et vous êtes les esclaves de Saül. » Quand vous entendez un message de ce type-là pendant 40 jours, le matin pour vous faire peur et le soir répété pour vous empêcher de dormir, cela fait 80 messages en 40 jours que vous entendez Pour finir, ça fait un lavage de cerveau. Vous finissez, vous craquez. C'est un prédicateur de mensonges. Mes amis, le diable n'a pas changé. C'est le père du mensonge qui veut nous faire croire que lui est quelqu'un avec une autorité, une puissance, avec des droits, et que nous, nous sommes que des esclaves. Souvenez-vous que Moïse, la première décision qu'il va prendre pour affermir sa foi, c'est qu'il refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il se positionne dans son identité. Mon identité n'est pas dans l'Égypte. Mon identité est en Dieu. Je suis fils d'Hébreu. Je suis dans une élection spéciale. Et c'est ça mon identité. Mes amis, David avait une identité. Et le peuple, à force de se laisser touché par les mensonges du diable, les mensonges de Goliath, avait perdu son identité de peuple de Dieu, de peuple élu. Il se croyait finalement quand même des esclaves, des gens qui étaient dans la faiblesse et dans l'impossibilité de réagir. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui lorsque nous ne sommes pas positionnés correctement dans la foi, parce que nous ne connaissons pas suffisamment l'identité du chrétien, qui nous sommes en Christ. Nous savons les choses à peu près, nous tournons les pages de la Bible pour les lire, mais il faut intégrer dans la solitude, devant Dieu, intégrer ce message de l'identité en Christ. Parce que demain, quand tu seras confronté à un géant qui va t'impressionner et t'intimider, qui va se dresser comme une montagne infranchissable, comment vas-tu réagir? Si tu n'as pas d'abord, comme David, positionné ta foi dans la solitude. Alors, David, il a compris cela. Beaucoup trop de chrétiens croient aux mensonges du diable. Et à cause de ça, tourne en rond et n'avance plus. Il est spécialiste contre les mensonges qui nous embrouillent et qui nous déstabilisent. Comme je l'ai dit, il donne la confusion, frères et sœurs. Le diable est un menteur. Et lorsqu'il te dit « tu n'es rien, tu ne peux rien, tu t'en sortiras jamais, ce sera toujours pareil, tu ne trouveras jamais personne, etc. etc. » On pourrait faire un alignement de mensonges du diable. Nous pouvons ce matin, comme David, nous lever, sortir notre pierre, sortir la parole, sortir l'affirmation biblique et lui lancer à la tête cette affirmation. Nous allons les voir maintenant, les affirmations qui vont venir les unes après les autres. David arrive donc. Et Dieu va l'utiliser avec ce positionnement de foi de David pour débloquer la situation qui bloque tout le peuple, pour le stopper. Nous allons voir maintenant les 6 étapes, courtement. 6 étapes. Et je vais mettre simplement les titres sur le slide afin que vous puissiez noter au moins le titre et vous référer tout à nouveau à tout le texte. Sans que vous avez les titres, vous pouvez avoir toute la prédication en un instant qui viendra à votre mémoire. Premièrement, David rappelle les actions de Dieu du passé. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père quand un lion, un ours venait enlever une brebis du troupeau. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Les expériences du passé, les expériences de victoire du passé sont rappelées. David témoigne, il rappelle ce que Dieu a fait pour lui auparavant, dans sa jeunesse, dans les expériences précédentes, des jours précédents, des mois précédents. Il rappelle comment Dieu a été vainqueur, comment Dieu l'a aidé, comment Dieu l'a secouru. Et il va témoigner de cela. C'est cela la première phase, la première étape du positionnement de foi. C'est de se souvenir, de compter les bienfaits de Dieu et de témoigner encore une fois en rendant gloire à Dieu. Lorsque vous témoignez des expériences du passé, vous rendez la gloire à Dieu. Vous rappelez ces choses. Si l'ennemi te rappelle ces mensonges, rappelle ce que Dieu a fait dans ta vie. Si l'ennemi veut t'intimider, toi, tu dis la vérité, ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Seigneur, dans telle et telle situation, tu ne m'as pas laissé tomber. Seigneur, c'était dur, j'ai pleuré, je ne m'en sortais pas. Mais tu étais là, Seigneur. Après coup, je vois que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, je peux le dire. Dieu a été là. Mes amis, vous avez quelque chose à raconter. Rendez encore une fois gloire à Dieu par votre témoignage. N'oubliez pas ces bienfaits du passé. Souviens-toi, tu as été sauvé. Rappelle ton baptême, rappelle tes protections, tes libérations, ton renouvellement, tes relèvements. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On veut le dire ensemble. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Deuxièmement, deuxième slide. David va réaffirmer ses motivations justes. Écoutez bien, ceci est très important. David n'est pas un militaire qui vient protéger son pays. David est un serviteur de Dieu qui protège son cœur. Si tu veux remporter des batailles, tu dois protéger ton cœur en toute chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Les motivations justes seront éprouvées. Si David était là comme quelqu'un disait « Oh, j'ai l'onction, ça va marcher tout seul. » Il était petit devant Dieu, dépendant de Dieu. La Bible, regardez ce que la Bible dit. Verset 20, il était soumis à son père. Verset 17 à 20, vous verrez qu'il est venu pour servir ses frères sur le champ de bataille. Il n'est pas venu comme spectateur pour prendre des photos ou des selfies avec le géant. Il est venu pour venir servir ses frères. Il accomplit, nous dit la parole de Dieu, toute la volonté de Dieu. Et pour lui, ce n'est pas l'éclat de la bataille ou la stratégie ou la tactique de bataille qui comptait. Ce qui comptait pour lui, c'était l'honneur de Dieu qui était en jeu. L'honneur de Dieu était en jeu. Et c'est ça qui l'a fait réagir. Il a protégé son cœur. Il avait reçu l'onction par Samuel qui a versé l'huile sur sa tête. Et il s'est dit, depuis ce moment-là, « Seigneur, c'est tellement précieux, c'est tellement cher ce que je reçois maintenant. C'est tellement important pour mon avenir ce que je reçois maintenant que je ne voudrais en aucun cas attrister le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, tu as reçu l'onction du Saint-Esprit. Et si tu ne l'as pas vraiment sur ta vie, tu peux toujours venir la demander et on priera pour toi. Cette onction, tu ne dois pas la perdre parce que tu peux la perdre. » Dans le même texte, il est question de Saül qui lui aussi avait reçu l'onction. Mais il a perdu l'onction. Il avait perdu cette onction. On ne va pas rentrer sur ce détail, il faudrait toute une prédication pour comprendre comment il a fait pour perdre ce qu'il avait reçu de Dieu. Il avait reçu l'onction royale. David a reçu l'onction royale, mais il ne fonctionne pas avec l'onction royale. Mais il chérit dans son cœur l'onction du Saint-Esprit. Et à cause de cela, il va dire, je protège mon cœur. Pas de péché, pas d'orgueil, pas de prétention, pas de choses charnelles, inutiles. Maintenant, il s'agit d'un combat où mon cœur doit rester propre, où mes motivations sont justes. Réaffirme, je pourrais dire aussi réexamine tes motivations. Est-ce qu'elles sont justes? Si tu veux une foi fermement positionnée, il faut d'abord protéger son cœur. Troisièmement, David rejette les paroles négatives. Avez-vous remarqué dans ce texte? J'ai lu quelques extraits rapidement, mais lisez-les encore une fois. Que David qui arrive sur ce champ complètement inconnu, il prend connaissance de ce qui se passe. Quel est le premier contact? Avec qui se passe le premier contact? Est-ce que c'est avec les sentinelles? Est-ce que c'est avec le géant? Est-ce que c'est avec qui? Avec ses frères. Première chose, il rencontre ses frères. Et c'est ses frères, ses propres frères qui lui posent problème. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Que tes propres frères, pas tes ennemis, pas le diable, mais tes propres frères, te posent un problème. Ils ne croient pas en lui, ils se mettent carrément en colère contre lui, ils ne croient pas du tout dans l'onction qu'il a reçue, puisque eux, ils auraient aimé l'avoir aussi. Et ils ne reconnaissent rien en David. C'est le petit dernier. Comment est-ce que Dieu peut utiliser le petit dernier là? C'est pas possible. Ils ne reconnaissent rien, ils se mettent en colère contre lui, ils ne le comprennent pas. Ils le mettent de côté, ils le jugent, ils le surveillent, ils veulent le corriger. Et j'aimerais dire quelque chose d'important ici. Ce texte est un texte inspiré, nous le savons. Et David va briller par sa bonne attitude. Il nous est dit au verset 30, ce texte je l'ai entouré de ma propre Bible, « Il se détourna. » Au lieu de commencer le combat de la mauvaise manière et contre le mauvais ennemi, ses frères, au lieu de s'énerver et d'en faire tout un tralala, il se détourne parce que le combat est ailleurs. Nous allons voir tout à l'heure. David, c'est le plus jeune, c'est la jeune génération. Ses frères sont plus âgés, ils ont plus d'expérience. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre eux, ils ne se comprennent pas. Je voudrais vous lire un témoignage d'un pasteur que je connais, qui a vécu quelque chose que j'ai... Quand je l'ai écouté, j'ai pris des notes et je l'ai résumé de cette manière. Dès l'âge de 14 ans, le jeune, je vais l'appeler le jeune, a fait l'expérience du clivage des générations dans sa propre famille, qui pourtant était engagée dans la foi. Jeune chrétien, dynamique, plein d'idées, il se profile pour servir Dieu. Son père, avec qui il a un bon contact, deviendra à un moment donné son observateur et son contrôleur. Le contact n'est pas mauvais en soi, mais bientôt père et fils ne se rejoignent plus. Le fossé se creuse encore lorsque les encouragements du père commencent à faire défaut et que les paroles comme « C'est bien, mon fils, mais fais attention de ne pas tomber dans l'orgueil » et des paroles semblables ont fini par l'exaspérer. Son père et ses pères dans le ministère semblaient uniquement intéressés par son service alors que le jeune attendait autre chose. Il avait simplement besoin qu'on lui fasse confiance. Pour finir, il part. En rupture avec la génération qui le précède, le voilà avec sa fougue de jeunes engagés dans la foi qui se démène, car pour lui, les vieux n'ont rien compris à la jeune génération. Le temps passe, mais les résultats se font attendre. Finalement, amer, blessé, fatigué, il n'arrive plus à continuer. Prenant son courage à deux mains, il retourne chez son père pour s'expliquer, renouer le dialogue et ouvrir son cœur. Le miracle a lieu et une vraie communion est retrouvée. Une compréhension se restaure entre eux. Dorénavant, il ne veut plus se passer de la bénédiction de la génération qui le précède. Ici, nous avons quelque chose de très important. Nous sommes une église multigénérationnelle où c'est David qui émerge avec une onction réelle, mais encore inexpérimentée, certes, ont besoin non pas de vivre ce que David va vivre, le rejet, la colère et le refus, le stop de la part de ses frères. Ils ont besoin de la bénédiction de ses frères, ces jeunes-là. Mes chers aînés, nous avons besoin de bénir nos jeunes. Nous avons besoin de les bénir de la juste manière en cherchant à les rejoindre le maximum possible. Le maximum possible. Peut-être que parfois on ne se comprend pas, mais il y a moyen dans le Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu et l'amour de Dieu et la vie spirituelle sanctifiée, il y a moyen de se comprendre, car la parole de Dieu dit « Je ramènerai le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. » Si le Seigneur a prophétisé ça dans le tout dernier verset de l'Ancien Testament, c'est qu'aujourd'hui on en a besoin. Dans toutes les générations, on a besoin. David en avait besoin, mais malheureusement, il n'a pas trouvé refuge auprès de ses frères. Donc, il va rejeter les paroles qui tuent, les paroles négatives. Il trouvera d'autres personnes. Car lorsque vous vous avancez pour Dieu, vous trouverez toujours des gens qui auront des propos négatifs à votre égard. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Parce qu'on ne lui donne même pas le crédit de ce qu'il a fait auparavant. Pourquoi as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Donc on ne lui faisait même pas confiance pour ce qu'il avait pourtant bien fait. On remet encore en question cela. Ce n'était pas facile pour David le jeune. Maintenant, la deuxième personne qu'il rencontre, ça va être la deuxième montagne à gravir. Maintenant, il fait face à son frère, à ses frères, il se détourne. Maintenant, il va rencontrer Saül. Qu'est-ce que Saül lui dit? Tu ne peux pas aller te battre avec le Philistin, tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est l'autorité qui parle. Alors, quand une autorité parle à un jeune, il dit, tu ne peux pas faire ça. C'est une parole forte, ce n'est pas le voisin qui dit ça, ce n'est pas n'importe qui, c'est une autorité, ça a du poids. Si nous avons une autorité quelque part, nous devons veiller de manière très soignée ce que nous disons, afin de ne pas décourager nos enfants, ni nos jeunes qui sont dans l'Église. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide à être un exemple à ce niveau-là aussi, véritablement. Et si quelqu'un a mal fait, j'aimerais dire aussi, si les jeunes ou la jeune se sent justement incompris de la part soit de l'autorité, soit de ses frères, il faut, comme ce jeune dont j'ai parlé tout à l'heure, ce jeune pasteur qui est un pasteur confirmé maintenant, il a fait un retour vers ses pères et les choses se sont arrangées. Quatrièmement, David repère la nature de la bataille. Frères et sœurs, il y a des batailles, et la plupart des batailles sont des combats spirituels. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dira Paul, mais contre les esprits méchants. Derrière certains combats sont des esprits méchants qui aiment ça, qui aiment la dispute, la division, la bataille, qui aiment les chicanes, les rivalités, qui aiment que les gens se chamaillent et qui se blessent. Ils aiment ça. derrière les bagarres charnelles se trouvent des esprits méchants qui poussent là-dedans. Les batailles dans l'histoire d'Israël sont toujours des batailles spirituelles. La bataille contre Amalek dans Exode 17, c'est une bagarre spirituelle. Relisez le texte. Tant que Moïse prie, en bas, il gagne la bataille. S'il arrête de prier, c'est l'ennemi qui gagne. Les batailles contre les Philistins, contre les Moabites, les Amalécites, c'est toujours des bagarres spirituelles. Même une dispute en couple peut être une bataille spirituelle. Vous avez une incompréhension et si vous ne faites pas attention, à un moment donné, ça monte et vous avez une bagarre. Vous avez une dispute parce que l'ennemi cherche à vous pousser dans la division, cherche à déconstruire ce que Dieu construit, cherche à démolir ce que Dieu bâtit, cherche à désunir ce que Dieu a uni. Et tout content qu'il puisse vous donner encore un coup de main pour que dans votre chair, vous entrez dans la bataille qui est une mauvaise bataille. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. David l'avait compris, il s'éloigne de ses frères qui le découragent et il ne va pas écouter les paroles négatives, mais il va écouter les paroles de Goliath. Et lorsqu'il écoute les paroles de mensonge de Goliath, l'onction se réveille en lui. L'onction se réveille en lui et là, il va réagir de la bonne manière. Alléluia. Les paroles de Goliath, nous l'avons dit, ne sont pas neutres. Elles paralysent la foi, elles empoisonnent les pensées de l'armée et elles détruisent la foi. C'est lui, l'ennemi à éliminer et ce n'est pas ses frères ni Saül. Un pasteur qui voulait trouver un bon moyen sur un flyer, un tract pour annoncer les gens, leur annoncer à venir à l'église, il a trouvé une bonne formule inspirée d'après ce texte. Il a dit, ce soir, grande invitation, je vous invite à un match de boxe à l'église. Un match de boxe entre, ce sera un combat entre Jéhovah et Dagon. Un combat entre Emmanuel et Belzébul. Je ne sais pas s'il a attiré du monde avec cette annonce, mais c'était plutôt quelque chose pour faire réagir les gens. Mais il y a des combats spirituels, frères et sœurs. Il repère que le combat pour positionner sa foi est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat contre les gens, mais contre les puissances. Cinquièmement, David répond au défi par une affirmation. Frères et sœurs, la foi fermement positionnée, elle a quelque chose à affirmer, quelque chose à dire. Nous devons posséder dans nos cœurs des paroles apprises par cœur, des paroles que nous savons où les trouver, où les redire avec conviction. Et David était rempli de ce genre de paroles. Il dira aux Philistins, « Toi, tu viens avec ton javelot et ta lance, mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. » La bataille, c'est quand même étonnant, la bataille commence par une discussion. La bataille commence par une discussion. Elle ne commence pas par une mise en scène. Elle commence par une discussion. Alors j'aimerais vous dire, la discussion avec le diable doit être brève et claire. Très courte. S'il y en a une, ce soit très court et clair. On ne discute pas avec le diable. On ne commence pas à discuter parce que c'est un très bon discuteur. C'est un très bon avocat du mensonge. Bref, clair. Lui, il aime l'intimidation, le mensonge, la confusion. Mais il a peur des affirmations puissantes de la parole de Dieu. Mettez contre les affirmations mensongères, contre la confusion, citez la parole de Dieu. Ça ne suffit pas d'écouter une prédication sur Internet. La parole de Dieu est puissante et efficace. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. La parole de Dieu, citez avec foi dans le cœur pur, avec des bonnes motivations, avec l'onction du Saint-Esprit, une parole de Dieu dans le cœur de l'homme et de la femme de Dieu aura un impact de Dieu dans l'ennemi qui va se taire et qui va reculer tôt ou tard. Ce Goliath va tomber tôt ou tard. Mes amis, peut-être que tu as affirmé des choses contre des choses qui t'oppressent, qui te mettent à mal, qui te ruinent ta vie, ta santé, ta tristesse qui te rendent malheureux, continue à affirmer, parfois à haute voix, parfois dans le cœur, parfois dans la paix, parfois dans les larmes, mais toujours la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, tôt ou tard, Dieu ne peut pas nous tromper. Tôt ou tard, cet ennemi va s'arrêter. tôt ou tard, cet ennemi va lâcher prise. Il faut juste persévérer. Il faut juste persévérer. Il y a des gens qui ne tombent pas seulement avec une pierre. David avait 5 pierres. On pourrait faire un message là-dessus. Pourquoi 5 pierres? Mais il était certain d'une chose, c'est que l'ennemi allait tomber de toute façon. Le nom de l'Éternel est une arme que David connaissait et c'est cette arme-là qu'il va positionner. Dernier point. David reconnaît la victoire avant le combat. Ça, j'aimerais qu'on termine là-dessus parce que David va donner l'issue du combat avant même qu'il n'a commencé. Il y a un texte très intéressant, dans Hébreux chapitre 11, verset 29, où il est dit « C'est par la foi que Israël a traversé la mer Rouge, qui était mise à sec, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, il est bien marqué, qui en firent la tentative, furent engloutis. » C'est cette affirmation de foi qui a fait que ça a marché, que Dieu était là et que Dieu a honoré cette foi. Mais les autres qui ont essayé ont été engloutis. Ils ont essayé de faire la même chose, mais c'était un essai, ce n'était pas la foi. La parole de Dieu insiste. Par la foi, ils ont traversé. Les Égyptiens qui ont essayé un coup, mais pas dans la foi, ils ont été engloutis. Donc il n'y a pas de victoire dans l'essai. Il faut avoir de l'assurance. Si tu manques d'assurance, cherche d'abord l'assurance. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Tant que tu n'as pas l'assurance, tu n'as pas la foi. Oui, mais je crois en Dieu. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas la foi dont on parle ici. La foi, c'est pour abattre le géant. C'est un autre type de foi que la foi pour le salut et le pardon de tes péchés. Si tu vas contre le géant, que tu as peur du géant, il faut d'abord régler le problème de la peur. Si tu vas contre le géant avec un manque d'assurance, il faut d'abord trouver l'assurance. Viens dans le désert. Refais quelques expériences avec le Seigneur. Affermis ta foi dans la parole de Dieu. Viens, retrouve la face de Dieu. Affermis-toi. Sois sûr de ce que tu fais. Détourne-toi des choses dont il faut se détourner. Et à un moment donné viendra, tu seras sur le terrain que tu n'as pas choisi. David n'avait pas choisi de confronter. Mais ça lui a été plus ou moins imposé comme ça, par l'onction du Saint-Esprit. Eh bien, quand il était devant, il était dans l'assurance que la bataille allait être du bon côté, il allait vaincre cette bataille. Aujourd'hui, verset 46, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. » Le petit jeune de 17 ans va dire ça, c'est incroyable. C'est Saül qui aurait dû dire ça. L'homme qui avait reçu l'onction mais qui l'a malheureusement perdu. David qui possédait l'onction, qui avait tous ces points dont on a parlé. Il reconnaît que la victoire appartient à l'Éternel. J'aimerais dire ce matin, en terminant ce message, la victoire est pour toi, mon frère, ma sœur. La victoire est pour toi. La victoire est là, dans la mesure où ta foi est fermement positionnée. Comme David, relisons ces quelques points. Ramène juste les points. Juste les points importants. Points 1, 2, 3 et 4. On va juste les relire une fois. David, d'abord, il va rappeler les bénédictions, les victoires du passé. Deuxièmement, David va regarder, considérer, réaffirmer ses motivations justes. Son cœur est propre. Troisièmement, David se détourne de ses frères. Ce n'est pas le bon combat. Il rejette les paroles décourageantes de ses frères et de Saül. David va repérer la nature réelle de la bataille qui est un combat spirituel et non pas d'une autre nature. Cinquièmement, David répond au défi par une affirmation. Il possède le nom de l'Éternel comme arme. La parole qui est dans son cœur, c'est l'arme par laquelle il va répondre. Et ensuite, il reconnaît la victoire avant même qu'elle ait commencé. Je ne sais pas quels géants sont à abattre dans votre cœur aujourd'hui ou dans votre vie. Le géant peur, mensonge, impossibilité de pardonner, des mauvaises habitudes, la colère, blocage, rejet, fornication, pornographie. Combat que tu croyais gagner, mais qui finalement te maîtrise encore. Dispute. On pourrait rajouter des lignes et des lignes de géants. Ce matin, si tu es fermement positionné, comme David, dans tous ces points, rien à faire, la victoire sera la même que celle de David. Amen.